Françoise Trossard et la belle équipe en route jusqu'à 13h58. À l'affiche, les étapes joli dimanche et droit de réponse. L'inventaire des noms de rue à remplacer et LSD. Un regard tordu sur un tableau de l'école de Fontainebleau, Hervé Le Tellier.
On a l'impression que le peintre, anonyme, a dit « Bon les filles, c'est trop statique, vous faites un truc gestuel qui anime tout ça. Tiens Gabriel, tu pinces le téton de Jeanne et tu fais bouger tes boucles d'oreilles. Voilà, c'est bien, vous bougez plus. »
Et puis Jacques Bertrand en pole position pour les gonfleurs de texte, suivi de Serge Joncourt, Jean-Bernard Pouy, Gérard Mordilla. Et pour le DLA de Patrice Minet, les experts Dominique Muller, Patrick Beignet et Eva Almassi.
Donc c'est assez moderne que de penser que nos intérêts émotionnels peuvent coïncider avec des intérêts financiers, voire que toute l'économie est à l'origine d'une question d'amour.
Une émission à retrouver sur franceculture.fr, à télécharger pendant un an, à réécouter 1000 jours. Bienvenue au Papou dans la tête. Et pour ouvrir le numéro du jour, une nouvelle série, épisode 7, Les jolis dimanches ou variations sur ce jour idéal par Hervé Le Tellier, à la manière de Prévert.
Rappelle-toi du dimanche, on n'arrivait pas du tout à se lever ce jour-là. Et tu dormais, souriante, endormie. Bâillante, ravissante, dans le lit. Rappelle-toi du dimanche, on avait mis la radio et on ne l'écoutait pas. Tu souriais, je souriais, et tu souriais, je souriais. Et alors tu as dit, quelle heure il est déjà? Et j'ai dit, merde, on ne devait pas aller chez tes parents? Et tu as dit, merde, si, on devait aller chez mes parents. Rappelle-toi quand même ce jour-là. Alors on a pris la voiture. La voiture pour aller chez tes parents. C'était à Chatou ou à Romorantin. On était en retard déjà. On était toujours en retard. Et tu roulais vite. Ce n'était pas une vitesse du dimanche. Et au feu rouge, un homme en vélo a crié. Il a crié, et ce n'était pas ton nom. Non, pas ton nom. C'était autre chose. Quelque chose comme Corias, ou Curias, ou Bonas. Mais il était déjà loin, l'homme, et loin aussi le vélo. On n'a rien répondu. On l'a semé. On ne répond rien à ce qu'on sème. Même si on ne les connaît pas, rappelle-toi, tes parents étaient là. Et leur village était heureux. Et il y avait du gigot. Il y avait toujours du gigot. Mais voilà, voilà, on ne remercie pas l'agneau qui donne son gigot. Non, on ne le remercie pas. Peut-être il est quelque part loin au pays des agneaux. Il est là-bas qui boite avec son gigot en moins. Et oui, on a le droit de le dire. Quelle connerie, la viande! Qu'il est devenu maintenant ce petit agneau que je mâchais en pleurant. Est-il mort, disparu, ou bien encore vivant, dans un déluge de sauce et de sang? Alors oui, oui, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas pour le clafoutis du dessert, le clafoutis de ta mère. Non, je n'ai pas pu, à cause du fromage et du pain, à cause de la salade aussi, à cause des flageolets dont j'ai repris. Mais à la fin, sur la table blanche, blanche comme tous les dimanches, blanche comme le dimanche, à la fin des fins, non rien, il ne restait rien.
Petite annonce papou, samedi prochain le 4 octobre à 19h, nous serons à Concarneau pour une soirée des papous dans la tête, ça se passe au CAC, le Centre des Arts et de la Culture. Sur scène avec moi, Dominique Muller, Lucas Fournier, Jeanne Carillon, Patrice Caumont, Hervé Le Tellier pour jouer à quelques-uns de nos geôliers terraires papous dans le cadre du festival Mémoire Maritime. Alors vous êtes tous invités, que vous soyez de Concarneau ou de la région Lorient, Fouesnant, Quimper, ou si vous êtes de passage en Bretagne, l'entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Rassurez-vous, la salle du CAC est grande et belle. C'est noté. Samedi 4 octobre à 19h, les papous au CAC de Concarneau. Tous les renseignements sur franceculture.fr, la page des papous Vie du Club et sur notre page Facebook. Personnages de fiction en quête de reconnaissance. Ils sont nombreux, les héros, mal à l'aise dans leur rôle. Que ce soit les méchants de l'histoire, les nunuches, ceux qui ne font que passer sans rien voir, ou bien les petits pages de Corneille qui n'ont qu'un demi-verre à clamer pour justifier leur présence, ou encore le petit pois d'Andersen, invisible pour tous. Bref, toutes ces créatures d'écrivains rêvent de petits aménagements dans les histoires qu'elles racontent, ces créatures. Et elles les demandent à l'auteur de leur jour. Patrice Minet, vous seriez un certain personnage?
Je suis un homme dans l'autobus.
Ah,
c'est lui.
de la ligne S.
Absolument.
Oh, mais je vous ai croisé.
Vous aussi.
Mais oui, absolument.
Vous n'êtes pas la seule.
Et alors, il n'est pas content ?
Ben non, il n'est pas content. Alors,
je trouve qu'il exagère parce qu'il a un rôle magnifique et qu'il se démultiplie.
D'abord, il ne le trouve pas magnifique. Ensuite, il en a réduit à écraser les arpions d'un autre homme.
Oui,
et
il
c'est
lui
tout.
Manque un bouton en plus tout le temps.
Non,
oui, c'est pas lui. Et puis il a un long cou.
Non, ce n'est pas lui. L'homme dans l'autobus, et c'est celui qui écrase les pieds du personnage principal.
Oui.
C'est un passager comme les autres.
Oui.
Et
ah.
immédiatement après s'être fait engueuler par le personnage principal, le personnage principal le quitte et on n'entend plus parler.
C'est vrai.
Un homme dans l'autobus.
Ah. Une silhouette.
Ah donc, c'est pas vous que je croise, c'est l'autre.
Oui, oui, vous m'avez croisé forcément, mais vous ne m'avez pas remarqué.
Ah oui, non, je comprends. Donc, il n'y a pas d'épaisseur dans le rôle. Oui.
Voilà, c'est un drame.
Une silhouette, quoi.
Donc, il est écrit à Raymond.
Oui, ben, on comprend mieux. Alors, oui.
Combien de fois? Il n'écrit qu'une fois?
Vous allez savoir. N'allons pas trop vite. J'étais sur la ligne S, bondé, comme d'habitude, d'aller voir ma sœur à la contre-escarpe, une bavarde intarissable, avec des histoires totalement dépourvues d'intérêt, qui n'en finissent pas, impossible d'en placer une. Bref, je ne vais pas vous tanner avec ma sœur, ou alors une autre fois, bon, et me voilà coincé pour l'éternité dans votre histoire, que vous racontez 99 fois de manière différente, sans jamais réussir à en souligner les détails essentiels, on dirait ma sœur, mais plus grave, sans une seule fois citer mon nom, ni dessiner ma personnalité. Qui, à Dieu ne plaise, fait et fera chavirer nombre de créatures, encore moins s'intéresser vraiment à mon physique, à dépôt de mon caractère. Et mille autres détails, j'en passe, et des meilleurs, et surtout, et quand je dis surtout, je veux dire jamais, au grand jamais, monsieur Queneau. Jamais je n'ai droit à la parole. Alors ça, c'est quand même fort de café, du grand n'importe quoi. Trois personnages principaux, sans compter l'autobus et tous ceux qui le bondent, ni la gare Saint-Lazare, je ne sais plus mille autres détails, et on n'apprend pas qui je suis, d'où je viens, où je vais, quelle est ma tenue, aucune nouvelle de ma sœur, rien du portrait éventuellement lapidaire de votre serviteur, escompté par la partie la plus intelligente de votre lectorat, et cerise sur le gâteau, je n'ouvre jamais mon clapet. Alors ça, c'est énorme. C'est tellement énorme que je pense que ça vous aura forcément échappé. Un auteur professionnel de votre gabarit, un cador des belles lettres qui arrive à raconter presque 100 fois la même chose sans que je puisse faire un tour de piste dans mes plus beaux atouts en chantant ma chanson. Moi, un va de la gueule de stature olympique, c'est forcément un acte manqué. Je vous signerai sur le champ un bon pour une psychanalyse carabinée de 30 ans si j'en avais le pouvoir. J'apparais 100 fois. 100 fois on m'interpelle. Tout le monde parle, crie, s'explique, s'injurie, s'affuse de tous les côtés. Tout le monde se tape sur le ventre en s'en racontant des bien bonnes. Et au milieu de tout ça, muet comme une carpe au milieu des Canaries, foin du plumage et foin du ramage de votre serviteur. Bref, vous m'accordez misérablement l'extrême autorisation de la fermer dans mon costume couleur de muraille. Je fais tâche et tapisserie au bal des bavards. En retour, réfrénant à grand-peine ce mot du général Cambronne, qui, telle la mouche bourdonnante se cognant à une vitre, insiste, par bonheur en vain, pour traverser la double barrière de mes dents et de mes lèvres, je vous adresse la supplique suivante. Remettez tout ça en place. Vous l'avez écrit 99 fois. Courage, la centième sera la bonne. Mettez-moi au centre, cela va soulager tout le monde. Bien à vous, signé X. Postscriptum, et ma fille ajoute, bien à vous, mon cul.
Ah oui, évidemment. Ah, c'est magnifique. Et c'est écrit sans un point.
Il n'y a pas de
c'est
point.
C'est ça, la contrainte.
Oui,
c'est
oui.
Une seule phrase. Ah, oui, quel
un
numéro.
Flot, un
mais on s'attache au personnage, là, hein, vraiment.
Pour le coup, oui, il n'y a que lui.
Et exactement, il est le seul à
on
exister.
On n'a pas le choix. Hein.
C'est vrai. C'est vrai.
Eh bien, si, on a le choix.
Ah bon, Dominique Muller, vous êtes Raymond Queneau?
Mais pas du tout.
Ah bon, mais
je
vous êtes
suis,
qui, alors?
Je suis... celle du post-scriptum et ma fille ajoute bien à vous mon cul. Je suis
Zazie.
Parce que cet homme dans l'autobus, naturellement, il ne le dit pas dans la lettre, mais il y boit aussi. Donc je n'ai eu aucune difficulté à lui piquer cette lettre.
Et dans donc, la poche directe.
Oui. J'écris à Gaston Gallimard.
Ah oui?
Papa, t'es vraiment pas gentil. Pourquoi tu m'as fourgué de paternelle dans les transports et en commun, en bus ou dans le métro? J'en ai ma claque, c'est pas très gai, sans ritournelle, parler d'un sport. Je pourrais continuer comme ça à perpète, cher Gaston Gallimard, puisque Raymond, mon créateur, et l'autre type, mon père de fiction, m'ont transmis, disent-ils, cet esprit gouailleur, bavard, effronté, culotté, qui a fait ma gloire. Intervenez, monsieur Gallimard. Suppliez monsieur Queneau de faire descendre monsieur X de cet autobus, ou mieux, de ne pas l'y faire monter. Le voir est 100 fois rouspété, ce matamore falot qui ne sait même pas dire merde quand il le faut. Ça m'exaspère, ça m'horripile. Je pourrais l'étrangler quand il entame une de ses lamentations, entraîné comme une courroie de bicyclette, plus vite, plus loin, et puis plus rien. La disparition, comme dit l'autre. Il n'y a plus personne. Même mon cul, il le prononce en se cachant derrière moi. Non, vraiment, monsieur Gaston, ça ne peut plus durer. Je ne veux pas d'un père pareil. Le passager de l'autobus S doit absolument marcher sur les arpions d'un autre voyageur et faire disparaître, se dissoudre, s'évaporer ce pauvre type. Vous savez ce qui me ferait plaisir ? C'est d'être la passagère du camion du salaire de la peur. Si monsieur Queneau tient absolument à m'associer à un moyen de locomotion. Je sais changer une roue, j'ai mon permis poids lourd, j'adore Yves Montand et surtout, surtout, j'en ai assez de mon personnage, de mon tonton, de mon prénom. Je suis une jeune fille accomplie, au langage choisi, voire fleuri. Je ne peux plus entendre ces discours mal tournés sous peine d'exploser. D'où c'est qui cause d'antan ces deux-là ? Aidez-moi, monsieur Gallimard, vous qui pouvez tout. Votre ex-Zazie, qui adorerait s'appeler Yvonne de Galais, ou Mathilde de la Mole, ou un truc du genre.
C'est une jolie lettre.
Mais oui, j'ai toujours trouvé adorable, moi, Zazie.
Ah bah, elle est mimi. Oui.
Elle est confinée dans un rôle que même son père reprend à son compte.
C'est vrai. C'est... Évidemment, ça ne fait pas évoluer le rôle de votre personnage,
dehors,
Patrice Minet.
Il n'a pas monté dans le bus, voilà. Voilà.
Et il n'a qu'à prendre le métro.
Ah non, ah oh bah non.
Pablo Gignoli pour les papous. C'est une manie chez nous. On note, on dresse des listes de tout ce qu'il est possible de collecter. Alors, il y a très longtemps, Jean-Claude Martin, je crois que c'était dans les années 80, avait écrit un délicieux petit livre dans lequel il nommait tous les objets oubliés dans une certaine piscine un certain dimanche. Eh bien, comme lui, nous nous attachons à ces cadeaux du quotidien, plus ou moins empoisonnés. Les petits bonheurs, les paires de claques qui se perdent, les bonnes ou mauvaises raisons de douter des autres, ou bien les œuvres dont on a loupé la fin. Alors le sujet d'inventaire du jour, il est proposé par Odile Conseil, les rues que l'on aimerait débaptiser. Pourquoi et quel nouveau nom leur donner ? Vous éliminez quel nom de rue, Odile ?
Plus que éliminer, je souhaite renommer toutes les rues Victor Hugo de France pour que ces rues aient désormais un sens. Je propose de leur attribuer, donc, en lieu et place du nom Victor Hugo, des mots de l'écrivain qui seraient à choisir en fonction de la situation des villes ou de leurs caractéristiques. Par exemple, dans une ville située à l'est de la France, on pourrait avoir, au lieu de la rue Victor Hugo, la rue « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ».
Ah oui.
Ou à l'île de Sein, au lieu d'avoir la rue Victor Hugo, on aurait la rue échevelée, livide au milieu des tempêtes.
Mais c'est subtil.
À Besançon, où est né Victor Hugo,
vieille ville espagnole,
on aurait la rue Ce siècle avait 2 ans.
Oui.
Et oui.
À Évian ou à Vichy, la rue Donne-lui quand même à boire, lui dit mon père. À Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, où il y a une maternité importante, ce serait la rue Lorsque l'enfant paraît. Bon, etc., etc.
Ah mais ce sont de très bonnes idées, ça. Excellentes idées.
Je les donne.
Même idée, Lucas Fournier.
Le cas Victor Hugo est essentiel, évidemment.
Oui.
Et moi, je propose qu'on réduise de 50% le nombre des rues, places, avenues Victor Hugo. Je ne pense pas que cette profusion soit nécessaire à son ego déjà boursouflé. Et on pourrait choisir quelques poètes un peu oubliés, Toulet, Charles Cross, ou des écrivains régionalistes comme Ferdinand Fabre, ou d'autres qui sont un peu tombés en désuétude, Duhamel, Mauroy, Pierre Benoît, Roger Vaillant. Un sur deux.
Pas bête, pas bête. Pascal Fioretto.
Oui, moi, une toute petite rue
que j'ai toujours rêvé de rebaptiser bien avant qu'Odile nous propose le grand chantier consistant à tout renommer, c'est le passage Claude Monet. Mmh. Parce qu'il s'agit d'une toute petite rue de Saint-Étienne, ma ville natale, qui bordait l'immense barre d'immeubles à loyer modéré où vivait ma famille et donc moi-même. Et durant toute mon adolescence, avouer que j'habitais passage Claude Monet, ça revenait à confesser l'origine modeste de mes parents. Alors aujourd'hui, j'ai dépassé, bien entendu, cette honte sociale. Mais à l'époque, j'aurais tout donné pour qu'on rebaptise le passage Claude Monet, avenue Antoine Pinet ou esplanade Bettencourt. Donc s'il n'est pas trop tard, je demande au maire de Saint-Étienne.
C'est un tout petit rêve de Pascal Fioretto. Exaucez-le. Patrice Delbourg.
Et moi, j'aimerais beaucoup débaptiser l'avenue de la Grande Armée, qui est sanguinaire. Et je la baptiserais l'avenue Jacques Tati. Parce que lui a su célébrer l'absurdité des grands ensembles, comme la Défense, que cette avenue dessert.
Oh, pas mal, puis ce serait bien, l'avenue Jacques Tati.
Voilà, avec la pipe, bien entendu.
Bien sûr. Odile.
Alors, toujours au nom de la variété, je propose de remplacer les rues, avenues, places, boulevards, etc. du général de Gaulle par des périphrases. Exemple, l'homme du 18 juin, l'instigateur de la 5e République, le chef de la France libre, mais aussi l'amateur du Québec libre, le dénonciateur de la chienlit, ou le rescapé de Petit Clamart, le mari d'Yvonne ou le grand ch'ti.
Le mari d'Yvonne, c'est bon.
Moi, ça ne me gêne pas du tout que Charles de Gaulle soit le nom d'un aéroport.
Non.
Non, parce que le général a pris l'avion. En revanche, il est beaucoup plus contestable que des stades portent le nom de non-sportifs ou de non-pratiquants. Alors, je ne vise pas Félix Bollard à Lens ou Marcel Michelin à Clermont ou le brave Abbé Deschamps
à Auxerre.
À Auxerre ou Félix Mayol.
Bien sûr, à Toulon.
À Toulon, qui certes n'étaient pas des sportifs, mais au moins des mécènes sportifs. Mais pour Pierre Monroy à Lille ou Michel Dornano à Caen, franchement non. Je les vois plus faisant le tour de la table au Conseil des ministres que le tour du stade à un meeting d'athlétisme. Donc à la place de Pierre Monroy, je propose par exemple Marie-Vonne Dupureuil, née à Lille. Il y a que pour Bordeaux où j'ai un doute avec le stade Chaban-Delmas.
Il jouait au tennis.
Ouais. Et au rugby.
Et puis monter les escaliers très vite.
Allez, on le garde.
Ouais. On soyons indulgents.
Pierre Monroy, il a joué au football en poussin quand il avait 11 ans.
Oui, c'est vrai. Si tous les enfants qui avaient joué à 11 ans au football avaient leur stade, alors...
Pascal Fioretto, une proposition.
Alors moi, c'est plus qu'une rue que je voudrais rebaptiser. C'est pratiquement un complexe, une infrastructure entière. C'est le triangle de Rocancourt. Et oui. Il évoque forcément les embouteillages du dimanche soir, les voyages immobiles avec la radio calée sur les grandes émissions politiques, les enfants qui s'impatientent à l'arrière, les parents qui s'engueulent, et puis le blues diffus des veilles de rentrée. Donc, à défaut de pouvoir accélérer la circulation des voitures, ça, c'est pas notre travail, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est le rebaptiser en, par exemple, le delta de Rocancourt. On aurait toujours l'idée du triangle, et puis ça évoquerait les flots paisibles d'un fleuve qui prend son temps pour déboucher dans la mer urbaine qui scintille au loin. Et puis pendant qu'on y est, on devrait aussi rebaptiser les bretelles d'autoroute en les appelant des affluents, et les péages seraient des écluses.
Pas mal, pas mal. Mais moi, je défendrai toujours le triangle de Rocancourt à cause d'une expérience tout à fait papou
de minimal.
Tourisme minimal faite par Serge Joncourt qui était parti un week-end sur le triangle de Rocancourt et que Patrice Delbourg était allé rejoindre sur le triangle.
Pour vérifier.
Alors, et ouais, si ça s'appelle plus triangle, alors il y a tout un pan de la vie de Serge Joncourt qui tombe, vous comprenez ? Patrice Delbourg.
Moi, je peste parce que sur le cadastre urbain, il y a beaucoup trop de militaires. Beaucoup trop d'ecclésiastiques, très peu de poètes, très peu de gens de qualité. Il y en a un particulièrement que j'ai dans le collimateur et qui est sans doute avec Clémenceau et De Gaulle celui à qui le plus grand nombre de plaques ont été dédiées, c'est Thiers. Thiers qui est quand même un infâme nabot atrabilaire qui est le boucher de la Commune de Paris. Je ne vois pas pourquoi 4000 artères en France portent le nom de Thiers et ne serait-ce que celle qui est à côté de chez nous, là, à côté de la Maison de la Radio, dans le 16e, qui est assez malingre, il faut bien le dire, je l'appellerai la rue Camille.
Camille, c'est
qui avait vu, pas loin,
bien sûr.
Délicieux humoriste, auteur inoubliable de Histoire à lire sous sa douche. C'est autre chose quand même que le petit Tyranno de village.
Lucas Fournier.
Moi, je voudrais changer les dates. Parce qu'il existe presque partout des rues du 4 septembre, des places du 18 juin, des avenues du 19 mars 62. J'ai trouvé aussi une rue du 10 avril à Toulouse, une rue du 10 décembre à Cherbourg, une place du 23 août à Bourgoin-Jallieu.
Ouais.
Celle du 17 octobre, c'est à Strasbourg. Et pour finir, le 27 août,
à Dijon,
à Colomiers. Personne ne sait vraiment ce que l'on commémore. Donc je propose de remplacer les dates en question par le nom d'un personnage né ce jour-là, par exemple.
Oui, pas bête. Un exemple ?
Bah, le 18 juin, Pascal Fioretto.
Ah oui, bah, évidemment.
C'est gentil.
Moi qu'on pense à toi.
Oui, surtout que le 18 juin, il y a l'appel et moi, c'est finalement...
Et plus rien d'autre n'existe. C'est à vous.
Il y a des injustices sur le cadastre. Les deux présidents poussifs de la 4e République, Auriol et Coty, bénéficient à Paris de deux magnifiques boulevards à double chaussée, arborés, rempierrés, tout le tralala. C'est disproportionné au vu de leurs compétences. Célébrons plutôt le Music Hall. Le Music Hall, et donnons-leur respectivement les noms de Nougaro et Gainsbourg. Boulevard Claude Nougaro, boulevard Serge Gainsbourg, ça a de la gueule, non ?
Ah oui.
Bon.
D'accord, Odile ?
Absolument d'accord.
Et vous ?
Moi, je propose que la rue Legendre, qui est à Paris dans le 17e, oui, devienne une année sur deux la rue Labru, au nom de la parité.
Moi, je suis venu à pied et doucement, sans me presser, j'ai marché à pied, à pied. J'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant à pied, à pied. Dans la rue, il faisait bon, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. J'aurais pu, ça me fatiguer, traverser Paris entier en marchant à pied, à pied. J'aime déambuler au hasard, je vais partout, je ne vais nulle part, mais simplement pour voir des rues, les belles boutiques sur les avenues et les filles aux sourires gracieux, avec des promesses plein les yeux. Les crieurs de journaux du soir, les enfants qui jouent dans les squares. À ce que la vie peut être belle, il y a des filles en ribambelle tout autour de mes semelles. Je me sens si léger, léger, je voudrais toutes les enlacer, les aimer, les caresser. J'espère un jour rencontrer le vrai bonheur à la portée du bout de l'un de mes souliers. Je suis sûr de le trouver, quitte à faire le monde entier en marchant à pied, à pied. En marchant à pied, à pied.
Yves Montand, à pied. Les Papous dans la tête de France Culture, en proie au L.S.D. Le léger strabisme divergent, au regard tordu, en biais, sur un certain tableau. Attention, il est très connu ce tableau. Vous pouvez aussi le voir grâce au lien qui vous mène à lui sur la page des Papous du jour. Mais voilà, nous ne voyons pas tous la même chose et c'est un des charmes de l'existence. On peut se libérer tout à fait de la réalité objective voulue par le peintre et penser qu'il a peint une toute autre histoire, puisque les tableaux racontent des histoires. Pour les rêver autrement, il suffit d'un peu d'imagination. Dominique Müller, elle n'en manque pas d'imagination et elle a élu pour son L.S.D. un tableau qui intrigue, ça c'est certain. Votre choix, Dominique, parmi tous les possibles.
Eh bien, j'ai choisi un tableau de l'école de Fontainebleau qui s'intitule « Portrait présumé » de Gabriel Destrée et de sa sœur, la duchesse de Villars. Il date de 1594 et il est au Louvre.
Voilà, c'est le fameux tableau où une des deux pince le sein de l'autre.
Exactement.
Le sein dénudé. On voit deux paires de seins sur ce tableau, mais pas que. Hein. Donc, Hervé Letellier, vous êtes chargé de la description objective.
Oui. Oui, ben je vais être objectif. Hein. Une brune, une blonde de quatre seins.
Oui.
Voilà. Deux jeunes filles, aux seins plutôt petits, plutôt pommes. Toutes les deux sont frisées. Les cheveux sont ramenés sur la tête. Elles sont peut-être nues. C'est une possibilité. Deux draps rouge théâtre encadrent les jeunes femmes. Les plis des tissus contrastent avec la peau laiteuse et lisse des adolescentes. Et alors là, il se passe un truc incroyable. La brune pince entre index et pouce le sein droit de sa sœur, laquelle n'exprime aucune expression.
Non.
On a l'impression que le peintre, anonyme, a dit « Bon, les filles, c'est trop statique. Vous faites un truc gestuel qui anime tout ça. Tiens, Gabriel, tu pinces le téton de Jeanne et tu fais bouger tes boucles d'oreilles. Voilà, c'est bien, vous bougez plus. » Bon. Alors, à l'arrière-plan, un truc dingue. Une femme habillée, elle, dans une lumière douce, coud près de la cheminée. C'est sans doute la gouvernante des jeunes filles qui répare précipitamment leurs vêtements et qu'on a oublié de faire sortir du champ. Mais enfin bon, maintenant qu'elle est là, il est trop tard. Alors le peintre, il s'est résigné à la représenter quand même. Voilà, c'est comme ça.
Et c'est un très joli tableau, absolument.
Oui, c'est hein, une description très intéressante, je trouve.
Oui.
Très bien vu.
Ah
oui.
Ah, alors on
très expressive déjà.
Oui, c'est vrai. On va découvrir votre interprétation, Dominique Muller. Mais avant, je voudrais avoir un petit point de vue, comme ça, à la va-vite, de Serge Joncourt, sur ce tableau que vous n'avez pas découvert, vous le connaissiez.
Oui, on le connaît tous, effectivement, oui. Et très jeune, puisqu'il y a deux femmes nues, alors évidemment, ça.
Ah oui, dès l'âge de 12 ans.
Ton
oui,
adolescente.
Sur Internet, de mon adolescence, s'il vient de le préciser. Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement d'un cours d'auto-école, au Cap d'Agde.
Au Cap d'Agde.
Oui. Ouais. Alors, un tour d'auto-école, voire même un cours de voiture à cheval école, ou,
oui.
Ou calèche école. Car finalement, entre une voiture normale, d'un moteur explosion, et une voiture à cheval, il n'y a guère que le nombre de chevaux qui change. Pour le reste, la conduite, le code de la route, les positions sont à peu près les mêmes. Hein. Alors, toutefois, vu l'amplitude du dispositif, on peut supposer en fait qu'il s'agit d'un cours de formation sur poids lourd. L'habitacle a l'air en effet assez large et profond, hein, à tel point que tout au fond, on voit une brave femme au fond de la cabine, en train probablement de réviser son code de la route auprès de, des veilleuses. Là, non.
C'est elle qui va passer l'examen
son
après.
Tour de prendre le volant après. Hein. Ouais. Alors, pour ce qui concerne notre tableau, on peut supposer que nos personnages sont à l'arrêt, très probablement, hein, car l'élève, pas plus que le moniteur...
Mais qui est la monitrice, on pourrait dire, non ?
La monitrice, absolument,
oui,
vous avez raison, féminisant. Féminisant,
oui. Oui. Je suggère.
Elle fait des progrès. Alors, il n'y a pas de volant, vous l'aurez remarqué. Pourquoi ? Eh bien, par souci, si vous voulez, de respect de l'entité graphique des personnages. En effet, placer le volant au devant d'un des personnages aurait été quelque part...
Ça aurait gâché.
Oui, le masquer.
Et puis en fait, on ne les voit qu'à partir de la taille, donc on peut penser que le volant est un petit peu plus loin, non ?
Alors,
enfin, je veux dire, on ne voit pas le bas du corps sur le tableau.
Le volant n'est pas très bas.
Le volant n'est pas très bas, mais...
Vous mettez un bottin sur votre siège, comme
ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui conduisent les bras pliés, puis des gens qui conduisent les bras comme ça, sportivement, quoi.
Très bien.
Les bras très allongés. Donc on peut imaginer que le volant est beaucoup plus loin que les deux jeunes femmes.
Mais j'entends bien tout ça, c'est pour ça que j'ai postulé du fait qu'elles étaient à l'arrêt.
Oui.
Et que le peintre n'avait pas mis le volant, histoire qu'on les voit mieux.
À cette époque, on enlevait le volant à l'arrêt.
C'est une
hypothèse. C'est possible, oui, amovible.
Et on n'avait
oui.
pas encore décidé si on le mettrait à droite ou à gauche. Maintenant, pour ce qui est du cours à proprement parler et de son état d'avancement, je suppose que là, la monitrice donc, explique à son élève le maniement des avertisseurs sonores. Hein.
Ah.
Dans tous les cas, il y a fort à parier que ça va faire du bruit d'ici peu si elle appuie trop fort. Ou alors, elle essaye de lui enseigner l'art du clignotant. Et en l'occurrence, il est bien évident qu'elles vont tourner à droite. Voilà.
En fait, c'est poète-poète camion.
Voilà,
c'est le célèbre poète-poète camion.
Oui. Et le Cap d'Agde, parce qu'elles sont toutes nues. Il fait chaud.
Ben oui. C'est chez les nudistes, le Cap d'Agde.
Oui, le Cap d'Agde, c'est un peu ça.
Oui,
il y a, c'est une vraie ville. Il y a des cours d'auto-école au Cap d'Agde.
Ouais.
J'ai passé mon permis.
Au Cap d'Agde, tout nu.
Et sans volant.
Sans volant.
Et sans volant.
Et sur poids lourd.
Très fort. Alors, je suis montée un jour en voiture avec lui. Je comprends mieux.
Pas de volant.
Tout s'explique.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation, Dominique ?
Ça n'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas ça.
Mais c'est possible, hein ?
J'en doute. Ah oui. Le peintre est anonyme. Les deux personnages n'ont pas de nom, puisque c'est présumé. Et la toile n'a pas vraiment de titre. Autant dire qu'il était temps que je me penche sur elle, oui. Je crois, pour éclairer votre lanterne. Il ne s'agit pas de Gabrielle d'Estrée, la favorite d'Henri IV, ni de sa sœur, car ces deux gentilles femmes n'auraient jamais participé au concours de Miss Poulopo, qui en est le sujet.
Ah bon ?
Nous sommes en 1594, ne l'oublions pas. Après 7 ou 8 guerres de religion, une longue guerre contre la Ligue, Henri vient d'être sacré roi à Chartres et à 41 ans. Autant dire qu'il a grand besoin de battage médiatique pour se faire aimer de ses sujets. Il organise donc le concours de Miss Poulopo dans toutes les villes du royaume afin d'élire sa reine, dont le premier prix sera un jour à la cour avec garde-robe et tout. Cette compétition est immédiatement populaire. Partout, les foules s'agglutinent pour juger les candidates qui se pressent. Et c'est cet événement que le peintre a fixé avec un œil de journaliste, quasiment. Après une présentation groupée, comme dans tout concours, nous voyons ici, debout sur scène, les finalistes qu'il va falloir départager. Elles sont à demi cachées par une paroi dite de pudeur, l'époque interdisant l'exhibition publique des intimités, les gens désirant tout de même se rincer l'œil, bien que, rappelons-le, le bikini ne fût pas encore inventé. Ce n'est pas en objet érotique qu'elles montrent leur sein nu, mais en instrument principal de l'épreuve finale et déterminante du concours, le « plumer la poule ». C'est le clou de la compétition. Chacune son tour, la jeune fille devra réussir à saisir délicatement le téton de sa rivale, sans douleur, ni égratignure, ni rougeur, ni grimace sur la figure. Pourquoi, pourrait-on se demander ? C'est l'endroit le plus sensible qui prouvera son talent à plumer les volatiles avec douceur, sans leur faire tourner les sangs ni leur trouer la peau qui ainsi enveloppera tous les sucs. Auparavant, les deux finalistes sont exercés en s'arrachant les cheveux autour du visage. C'est pourquoi aucun ne dépasse. Leur coiffure est dressée sur la tête pour mieux les tirer un à un. Difficulté supplémentaire, le jeu est la version féminine du « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Privées de cet accessoire pileux, les jeunes filles tiennent la seule chose qui pointe, le téton, sans rire ni sourire, sous peine d'élimination. C'est l'ultime obstacle après des mois de préparatifs. Et le peintre a parfaitement rendu la tension qui anime les candidates sous leur sérénité. Osons dire qu'il y a un suspense hitchcockien dans cette bataille feutrée. Encadrée par 2 rideaux rouges pour tout décor, la carnation laiteuse et les figures figées donnent une impression de feu sous la glace. Le rouge, c'est le sang, et le blanc rosé, c'est la chair de la poule. Le concours est documenté par l'expression « avoir la chair de poule » qui vient du trac des concurrentes, voire Todorov in Semiotica Gallina, que vous avez lu, bien sûr.
Bon, évidemment.
En arrière-plan, dans les coulisses, une femme vêtue de rouge de la tête aux pieds est assise près d'une table recouverte d'une tenture verte, allusion subliminale à Henri le Vert Galant. C'est la mère d'une concurrente, modestement penchée sur son ouvrage, une bande de tissu blanc sur les genoux. Une grande cheminée et 2 tableaux au mur suggèrent que l'impresario, autrement dit le roi lui-même, avait à cœur le bien-être de ces demoiselles. Ce que coud la dame et l'écharpe que portera la gagnante. On peut supposer qu'elle finit de broder Miss Poulopo 1594, peu avant l'instant fatidique de la décision. Laquelle de ces 2 Miss sera désignée Miss ? La brune de gauche, la blonde de droite ? Leur visage, leur corps, leur sein, leurs perles à l'oreille sont quasi identiques, comme pour dépeindre le concept même de jeune fille. Pour un œil d'aujourd'hui, elles sont toutes 2 mastoc avec une poitrine 75A sur un torse épais et des bras comme des saucisses. Mais souvenons-nous que ce n'est pas un concours de beauté. Miss Poulopo doit être une ménagère accomplie, plumer ses poules pour régaler les siens et par là égayer le peuple. L'opération fut un succès énorme pour Henri IV et l'engouement pour les représentations de ce concours de Miss fut si fanatique qu'on raccourcit École de Fontainebleau en École des fans. En demeure aussi le petit nom de poule, à la tendresse teintée de gauloiserie, tout l'image que le bon roi Henri voulait donner de lui à ses sujets. En subsistent encore les concours de reines et leur déclinaison en radio-crochet et télé-réalité.
Et puis le, finalement, Top Chef.
Tout ça, c'est, voilà. Ouais. Tout ça, puis, ça vient de là.
Et puis Marie Ravaillac l'a raté en 1610, aussi, la fille de Ravaillac, voilà. Et ça explique cela.
Ah là là. Ah oui.
Ce qui prouve mon hypothèse, c'est quand même la couture de la banderole.
Ah oui. Oui, ça, il n'avait pas vu, Serge. Hein.
Non. La femme derrière, si.
Enfin, si, vous l'avez vu, mais vous avez pensé qu'elle était en train de réviser le code.
Ce qui ne fait aucun doute, oui.
Oui. On va vous laisser débattre tous les deux. On vous quitte sur la pointe des pieds.
Oui, mais bon, j'ai du mal à plaisanter sur la pauvre Gabrielle d'Estrée, qui est une sorte de Marilyn Monroe moderne, qui est morte dans des conditions de souffrance atroces et abominables.
Dans 3 ans, elle meurt dans 3 ans.
On ne la reconnaissait pas, c'est juste avant. Et ça, j'ai une pointe d'émotion, excusez-moi.
Tenez, je vous offre un Kleenex.
On s'était assis sur l'herbe tendre. Je t'ai regardé, tu n'as rien dit. Pourtant tu as dû bien me comprendre. Je n'ai pas bougé, mais j'ai rougi. Presque oui, presque tout. Nos yeux fous l'ont promis. Qu'à la douceur
étranger familier, presque oui. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, les gonfleurs de texte, un joli dimanche et le DLA pour un piège littéraire tendu par Patrice Minet à Dominique Muller, Eva Almassi et Patrick Beignet. Alors voilà, c'est le moment ludique des gonfleurs de texte chargés de détourner une certaine phrase de sa très belle simplicité. Les écrivains en piste pour ce jeu glisseront leurs mots à eux entre ceux de l'auteur de la phrase en jeu, la nourrissant de l'intérieur, la doublant en volume par gonflement successif. Mais attention, pas touche aux mots du début et à celui de la fin qui doivent conserver leur place respective. En piste, Jacques Abertrand, Serge Joncourt, Jean-Bernard Puy et Gérard Mordillat.
C'est pas innocent de choisir une phrase pour la proposer au jeu. C'est même sacrément important. Et je l'ai choisie en pensant à vous, Jacques Bertrand. Vous nous la lisez ?
Un train siffla dans les jardins mouillés. Il arrivait en gare, pareil à un mystère, à une chose qui arrive de la lune avec sa cargaison de voyageurs.
C'est un écrivain que vous aimez bien, Jacques Bertrand. Une idée ?
J'en aime quelques-uns. Hein.
Oui, quand même. Mais j'ai pas dit le seul, j'ai dit un. Qui a une idée ?
J'ai pas d'idée. On peut avoir un indice ?
Un train dans les jardins mouillés.
Oui.
Un indice ?
Oui, l'Auvergne.
Ah, Violette ?
Oui. C'est dans les fruits du Congo. Ah. Elle est belle, cette phrase.
Je n'ai pas lu les fruits du Congo.
Allez, on la ré... Ah, bah, vous devriez lire les fruits du Congo, c'est somptueux. Hein. Relisez-nous ça.
Un train siffla dans les jardins mouillés. Il arrivait en gare, pareil à un mystère, à une chose qui arrive de la lune, avec sa cargaison de voyageurs.
Voilà, alors, il y a de la ponctuation partout dans cette phrase de départ. Je dis ça à Serge Ancourt parce que je sais qu'il s'attache beaucoup à la ponctuation en général quand il écrit principalement au papou et il est juste derrière vous. Mais vous, Jacques Bertrand, donc vous aviez ces virgules dans le texte pour vous insinuer, si je puis dire.
Oui.
Hein, donc oui. Vous êtes glissé. Avec quel projet ?
Alors moi, j'ai trouvé que c'était une ambiance un peu entre le petit train d'interlude et les frères Méliès. Donc je suis allé vers le cinéma un peu.
Ouais. Et vers le film muet d'animation.
Oui, enfin oui, mais sauf que vous savez, même les films muets, il y avait du bruit pendant le tournage.
Ah, mais ça va être bien.
Ah oui, c'est formidable, spectacle, il n'y aura pas de son. Mais...
On est dans la salle, on vous écoute, Jacques.
Un train, dont la vieille locomotive à vapeur avait l'air d'un jouet, siffla trois fois dans les jardins mouillés par un crachin persistant. Il arrivait en gare de la Ciotat, où s'était installée une équipe de cinéma. La première prise serait la bonne. N'empêche, c'était pareil à un mystère, ce train, au milieu d'un nuage de fumée et dans le crissement des freins, pareil à une chose arrivant de la lune avec une cargaison d'étranges voyageurs.
Ça, c'est très joliment écrit. Hein. On est toujours chez Vialat.
C'est un poète, que voulez-vous. C'est dommage.
De... Oui, c'est même dommage de continuer.
Oui,
ça va s'aggraver très nettement.
Oui, d'autant qu'on continue avec Serge Joncourt. Oui, bon, Serge, il écrit très joliment aussi, mais il n'a pas tout à fait le même style que vous, Jacques Bertrand. Et c'est normal, chacun sa personnalité.
Pas cette délicatesse, que voulez-vous. C'est...
Alors, on est dans une ambiance charmante. Il y a un peu de pluie, il y a la gare de la Ciotat, il y a la lune. Oui. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces images poétiques, quand même ?
Un train.
Ouais.
Voilà à quoi on le comparait. Un train dont la vieille locomotive avait l'air d'un jouet. Je l'attendais sur le tatami. Et c'est vrai qu'il siffla trois fois dans les jardins mouillés par un crachin persistant qui menait au dojo. Il arriva en kimono... Comme un train en gare de la Ciotat.
Ça, c'est une belle phrase, ça.
Ouais. Hein ah, mais c'est du Joncourt. C'est très, très beau. Hein.
Ça fait image. Hein. Mm. Il salua les gradins où s'était installée une équipe de cinéma. La première prise serait la bonne. La sienne, pas celle du cinéma. La prise.
Une prise de judo.
Ah, bah, évidemment.
Merci.
Évidemment.
Merci, Jacques, de suivre.
Non, mais lui, il en a fait. Il est ceinture orange ou verte, je ne sais pas.
Je suis ceinture à poids.
Casaque rouge. C'était pareil à un mystère. À peine ce type, ce train, devrais-je dire, vous avait-il saisi le kimono, qu'il vous décollait de terre au milieu d'un nuage de fumée et dans le crissement monstrueux d'un Uchimata qui vous faisait valser si vous n'aviez pas desserré les freins. Et là, je me retrouvais le nez dans le jardin mouillé, pareil à une chose arrivant de la lune, avec sa cargaison d'étranges voyageurs.
Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Évidemment, il y a une histoire de judo, on peut dire. Hein.
Ah ben oui, ah oui, hein, voilà. Essentiellement même. Oui.
Essentiellement, mais on garde quand même l'esprit Vialat.
Poésie.
Les fruits du Congo, c'est un roman assez drôle hein, d'Alexandre Vialat. Moi, je rappelle quand même la phrase de départ, avant qu'on écoute Jean-Bernard Puy. Un train siffla dans les jardins mouillés. Il arrivait en gare, pareil à un mystère, à une chose qui arrive de la lune, avec sa cargaison de voyageurs. Ben, on est toujours dedans, hein ? Jean-Bernard Puy.
Dans quoi ?
Ben, dans cette histoire. Bon,
un kimono.
Il a mis un personnage, tout comme
Jacques à Bertrand, d'ailleurs.
Les trains, le judo, c'est tellement loin de moi que...
Non, mais... Ah, évidemment. Mais votre rôle, maintenant, consiste à gonfler ce texte de Serge Joncourt, qui était déjà, gonflé. Oui, Et donc, avec quel sentiment, quelle envie, quel besoin?
Je reviens dans le réel.
Ah oui.
Dans la vie de bureau.
Ah, de bureau? Oui. Ah bon? Comment pouvez-vous faire ça?
Vous allez voir.
Je peux tout faire.
Ah oui, c'est vrai que Gérard est derrière.
C'est retour au train-train, alors.
Un train d'atterrissage, voilà à quoi on le comparait, avec ses gros yeux et ses genoux tout ronds. Lui qui aurait préféré un train dont la vieille locomotive avait l'air d'un jouet. Mais c'était notre chef de réseau. Tous les matins, je l'attendais sur le tatami, c'est ainsi qu'il appelait son bureau. Et c'est vrai qu'il était un peu fou de cinéma notamment. Il sifflait toujours trois fois dans le jardin, ses rares cheveux mouillés par un crachin persistant. Jardin qui menait au dojo, c'est ainsi qu'il appelait le coin où il y avait la machine à café. Il arrivait boudiné dans son costume fripé, comme s'il était en kimono, fonçant tel un train en gare de la Ciotat, saluait les secrétaires comme public assis dans les gradins, où, d'après lui, devait s'être installée une équipe de cinéma. La première prise serait la bonne, la sienne, pas celle du cinéma. La première prise de bec, la première engueulade. C'était pareil à un mystère. À peine ce type, ce train d'atterrissage, devrais-je dire, vous avez pris la tête comme s'il était saisi d'un kimono, à peine vous avait-il brisé le moral, comme s'il vous décollait de terre au milieu d'un nuage de fumée, et dans le crissement monstrueux que fait un avion en touchant la piste, il hurlait, sans doute pour faire comme dans les Sept Samouraïs, il hurlait « Ushimata !» ce qui vous faisait valser si vous n'aviez pas desserré les freins. Alors, et là, comme les autres, je me retrouvais le nez dans le jardin, mouillé de sueur, paniqué, pareil une pauvre chose arrivant d'un périple lointain, comme de la Lune par exemple, avec ses semblables, des aliens, cargaison piteuse d'étranges voyageurs.
Ah oui, il y a de l'humain, mais ce n'est pas de l'humain très fréquentable. Hein.
On voit qu'il a travaillé dans les bureaux.
Oui, c'est une entreprise de quoi?
De pèse-personne. Il fabrique des pèse-personne.
Et vous faites quoi comme boulot, vous?
Mais je pèse les pèses.
Vous pèsez les... Jacques à Bertrand, bon, on est un petit peu plus loin de Vialat, mais bon.
Oui, bon, on aurait pu peser les mots davantage.
Ah, mais... oui. Bon, écoutez.
Oui, mais je vous rappelle, Françoise, que je ne passe pas après Jacques à Bertrand. Moi, je passe après Joncourt. Il y a une autre paire de manches, quand même.
Évidemment, c'est peut-être là l'erreur.
Ouais.
La difficulté.
Mais Serge Joncourt, passé par là, il a voulu jouer. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas lui dire non à Serge.
C'est très fort de rebondir sur le monde du travail comme ça.
Oui, mais je trouve qu'en plus, le détournement est magnifique. Et puis, offrir le monde du travail à Gérard Mordillard. Bah, c'est un cadeau, évidemment, pour Gérard Mordillat et pour l'épilogue.
Je suis resté dans le monde du travail, bien sûr.
Évidemment.
Avec, en étant quand même sensible à la dimension linguistique du texte.
Ah oui.
Son côté polyglotte, qui était évidemment manifeste et très important dans la narration.
Bien sûr. Il y a un titre à ce roman?
Harakiri vendredi.
Ah ouais.
Elle est bonne.
Quand Mademoiselle Michoko arriva dans le service comme contrôleuse de gestion, le chef crut son heure de gloire arrivée. Il l'accueillit d'un vibrant « Sayonara » et frappant du poing sur le tableau des graphiques qui indiquait une nette progression de la fabrication de chaussons de nuit, il proclama « Banzai !» Mademoiselle Michoko, née native de Quimperlé, lui fit remarquer qu'il s'agirait désormais de se parler en français plutôt que de baragouiner, verbe d'origine bretonne, son sabir westerno-nippon, et elle s'installa dans le quai bureau avant de sortir sa bombarde et son bignou. C'est-à-dire que le chef en prit plein la poire, une fesse-nose, comme on dit à Quimperlé.
Il y a un parcours entre la phrase, la si jolie phrase d'Alexandre Vialat et cet épilogue. Un train siffla dans les jardins mouillés. Il arrivait en gare, pareil à un mystère, à une chose qui arrive de la Lune, avec sa cargaison de voyageurs. Alors, tout le mystère est là.
Mais non, mais c'est ça le propre du train, c'est de faire voyager Quimperlé, Tokyo, rendre... C'est incroyable le chemin qu'on a fait.
Et puis, il y a plein de gens qui montent dans le train.
Et comme Mademoiselle Michoko.
Et oui, et Jean-Bernard Pruy.
D'autant qu'il y a un mystère de plus qui est que dans la région de Quimper, d'où vient Michoko. Il y a les vrais Quimpérois, ils ont les yeux bridés, des cheveux raides, noirs, comme des Japonais.
Sans blague, mais à partir de quelle heure?
Ibrahim Ferrer et Compay Segundo, saluons maintenant comme il se doit ce jour de la semaine qui nous accueille. C'est l'heure d'un joli dimanche, celui de Dominique Muller. Dominique.
Un dimanche d'Apollinaire. Je vois Maria le lundi et son audace m'enhardi. De Hildegarde le mardi, je croque le rose radis. Marie-Sibylle, le mercredi, perd la tête et ses bigoudis. Malheur elle aille, c'est le jeudi, quel est mon démon de midi. Grosse Bertha, le vendredi, gigote d'un corps rebondi. Léna tend le samedi, son sein rose en sucre candi. Tant de jours et tant d'avalanches, de filles aux baisers maudits, de lèvres qui sur moi se penchent, pauvre Guillaume, et ton cœur dit. Ô mon aimé, ma loue, ma blanche, toi qui m'as soif d'amour étanche, à l'eau de tes yeux bleus pervenches, quand sous moi ondule ta hanche, sais-tu pourquoi mon désir flanche et se débrouille comme un manche? Ô mon aimé, ma loue, sois franche, pourquoi faut-il qu'il se retranche, plaisir plus fuyant qu'une tanche, corps à cœur, jamais le dimanche.
France Culture, des papous dans la tête. Dernière étape du jour, une grosse étape, celle du DLA. Le diagnostic littéraire à l'aveugle est une course folle à la recherche de l'auteur d'un petit bout de littérature proposé à la lecture sans aucun indice. Une course folle avec ses côtes, où il est bon de s'accrocher à ses arguments pour ne pas se laisser décrocher. Ses chutes du moral, ses lignes droites vers le sprint de l'arrivée, avec une certitude finale, la révélation du nom de l'auteur des quelques lignes qui seront proposées à notre, à votre expertise. Côté studio, un maître du jeu, Patrice Minet, et trois experts, Dominique Muller, Eva Almassy, Patrick Beignet. Et du côté de chez vous, tous ceux qui voudront jouer avec nous, et le morceau de littérature, choisi aujourd'hui par Patrice Minet et présenté anonymement pour nous piéger tous. Qui l'a écrit ? Telle est la question. Vous lisez, Minet, on vous écoute.
Au XVIIe siècle, l'amour, en France, est un seigneur empanaché, magnifiquement vêtu, qui s'avance dans les salons précédé d'une musique grave. Il obéit à un cérémonial très compliqué, ne risque point un pas sans qu'il soit réglé à l'avance. D'ailleurs, il reste parfaitement noble, d'une tendresse réfléchie, d'une joie honnête. Au XVIIIe siècle, l'amour est un garnement qui se débraille. Il aime comme il rit, pour le plaisir d'aimer et de rire, déjeunant d'une blonde, dînant d'une brune, traitant les femmes en bonnes déesses, dont les mains ouvertes distribuent le plaisir à tous leurs dévots. Une haleine de volupté passe sur la société entière, mène la ronde des bergères et des nymphes, des gorges décolletées frissonnantes sous les dentelles. Époque adorable, où la chair fut reine, grande jouissance dont le souffle lointain nous arrive tiède encore avec l'odeur des chevelures dénouées. Au XIXe siècle, l'amour est un garçon rangé, correct, comme un notaire, ayant des rentes sur l'État. Il va dans le monde ou vend quelque chose dans une boutique. La politique l'occupe. Les affaires lui prennent sa journée de 9h du matin à 6h du soir. Quant à ses nuits, il les donne au vice pratique, à une maîtresse qu'il paye ou à une femme légitime qui le paye. Ainsi donc, l'amour héroïque du XVIIe siècle, l'amour sensuel du XVIIIe est devenu l'amour positif qu'on bâcle comme un marché en bourse.
Bon, c'est dommage qu'il ne nous parle pas du XVIe siècle.
Ni
et...
du XVIe, ni du XXe, je vous ferai remarquer.
Ni du XXe. Alors, ça veut dire quoi, votre
avis ? Ça veut dire que ça a été écrit au XIXe, je dirais, n'est-ce pas ?
Oui, c'est possible. C'est possible, Eva.
La même idée m'est venue en tête à cause de l'expression verbale, enfin, participe, est devenu l'amour positif. Donc, au XIXe siècle, comme si on y était, et c'est une critique de cette sorte d'amour, voilà. Où on est juste après.
Voilà,
juste
au
tournant ou encore en plein dedans.
Elles sont malines toutes les deux, hein, Patrick Beignet. Vous êtes d'accord avec elles ?
Et oui, on ne peut être que d'accord avec elles.
Oui,
elles
sont
tellement malines.
Vous avez comme ça une première approche du texte, un premier point de vue.
Oui, c'est, je dirais que c'est quelqu'un qui ne s'est pas fatigué. Hein.
Ouais, ça
le seigneur empanaché, les gorges décolletées frissonnantes sous les dentelles, il ne cherche pas à renouveler notre image du passé.
Oui, peut-être qu'au début du 19e, c'était encore neuf comme vocabulaire, non ?
Non, à mon avis, non. Le seigneur empanaché, magnifiquement vêtu,
c'est un peu facile.
À d'autres.
Donc, ce n'est pas un grand auteur, ou alors c'est un grand auteur, mais qui écrit sa vie de fait.
Petite forme, oui.
Petite forme. Ça se trouve dans quoi, Dominique Müller ? C'est la question.
Ah oui, c'est la question.
C'est une grande question.
Ben oui.
Parce que, naturellement, ce n'est pas un historien. Ça, nous sommes sûrs que ce n'est pas une espèce d'ouvrage sur l'histoire des mœurs. Enfin, ou alors, je serais vraiment très étonnée. Parce que c'est quand même une suite de banalités, justement.
Oui.
Enfin, c'est tellement bâclé, pour le coup, que ça ne veut plus rien dire. Bon. Donc, pas un historien, pas un de ces Michelets qui retracent comme ça. Pourtant, le Michelet, ça m'est venu en tête.
Ah oui, quand même.
Je pense que c'est un romancier et que c'est une espèce de prologue à un roman qui va nous montrer un politicard ou un banquier au 19e. Voilà. C'est très franchouillard, dirais-je.
Oui.
Oui.
Alors, quant à ses nuits, il les donne au vice pratique. À une maîtresse qu'il paye ou à une femme légitime qui le paye.
Ça, c'est
ça veut dire que c'est un gigolo qui a épousé
chose.
Une femme riche. C'est ça son idée, un petit peu. C'est dans quoi, Eva Almassi ? Vous êtes d'accord ?
C'est peut-être dans une nouvelle plutôt que dans un roman, mais ça peut être aussi dans un roman. On va asseoir toute une illustration de ce qu'on avance là en résumé. C'est vrai que ça ne cherche pas loin, mais c'est balancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que soit on paye sa maîtresse, soit la femme nous paye, c'est parce que c'est un rythme binaire. Voilà. Tendresse réfléchie, joie honnête, et ainsi de suite. Bon, cela dit, c'est pas désagréable, sans doute, surtout pour un monsieur de déjeuner d'une blonde et de dîner d'une brune. C'est là, ça cherche une espèce de connivence masculine.
Oui, mais peut-être la partie du 18e siècle est mieux écrite, non ? L'amour est un garnement qui se débraille. Il aime comme il rit, pour le plaisir d'aimer et de rire.
C'est le siècle qu'il regrette.
Exactement. Voilà. Donc peut-être qu'il l'a moins bâclé, pour reprendre votre expression, que les autres, non ?
Mais en même temps, c'est quand même extrêmement conventionnel. Je connais peu d'auteurs qui font l'éloge de l'amour au XIXe siècle contre toute la sensualité du XVIIIe. C'est aussi de l'ordre de la platitude. Non, pour la nature même du texte et sa provenance, moi j'aurais peut-être une hypothèse. Pour essayer de justifier ces platitudes, ça pourrait être une quatrième de couverture. L'amour en France, de la Renaissance à nos jours. Comme ça, on vous donne un résumé. Et le ainsi donc, voilà.
Auquel cas, ce n'est pas forcément écrit par l'auteur.
Vous pouvez
souvent, c'est quelqu'un dans la maison d'édition qui fait la quatrième.
C'est très gentil.
Souvent, les auteurs écrivent même la quatrième.
Moi, je veux bien vous répondre.
Eh bien, dites-nous, alors, ce passage est écrit par l'auteur.
Et il est écrit par son auteur.
Merci, Mine. Ben, ça nous éclaire énormément. Je ne sais pas où ça nous mène. C'est écrit directement au français,
Dominique ? Hélas, oui.
Je pense aussi, oui.
Ouais, oui. Un peu d'ambiguïté, Eva.
Oui, mais si c'est, moi, je défends quand même le texte dans la mesure où il n'y a pas du tout de faute de rythme. Ah. Et si c'est des choses convenues, on y passe rapidement. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une sorte d'introduction à ce qui va suivre sous forme de fiction. C'est comme quand nous faisons nos fables, parfois la morale vient avant.
Oui. Ah, ce serait une sorte de résumé de ce qui va suivre.
Oui, qui va suivre ce que je disais.
Pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire le livre, voilà ce dont parle mon livre, c'est aussi ce que vous disiez.
Quant à l'expression, il y a au moins un point que je trouve, c'est le cas de le dire, c'est un point que je n'aime pas, c'est l'amour ne risque point un pas sans qu'il soit réglé d'avance.
Oui.
Le point, on voit bien qu'il est là pour éviter
le pas.
Il ne risque pas un pas, oui. Mais ce n'est pas plus heureux pour autant.
Oui, et puis c'est le côté 17e.
C'est un beau siècle quand même.
Oui, ça c'est bien.
Peut-être, c'est vrai. C'est assez... Mais il n'y a pas une phrase que vous sauveriez dans ce texte.
Non, mais peut-être la suite. Peut-être que la phrase suivante, c'est « Aristide Blomet marchait sur le boulevard lorsque blou 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 ».
Pourquoi vous avez choisi ce texte, Patrice Minet ?
Moi, de toute façon, dès qu'on parle des femmes, ça me plaît.
Ah bon, voilà. On le réécouterait volontiers.
Au XVIIe siècle, l'amour en France est un seigneur empanaché, magnifiquement vêtu, qui s'avance dans les salons précédés d'une musique grave. Il obéit à un cérémonial très compliqué, ne risque point un pas sans qu'il soit réglé à l'avance. D'ailleurs, il reste parfaitement noble, d'une tendresse réfléchie, d'une joie honnête.
Mais il le dit très bien quand même. Hein.
Ah, oui.
Il le défend, son texte.
Et oui, et pourtant, c'est pas moi qui l'écris. Au XVIIIe siècle, l'amour est un garnement qui se débraille. Il aime comme il rit, pour le plaisir d'aimer et de rire. Déjeunant d'une blonde, dînant d'une brune, traitant les femmes en bonnes déesses, dont les mains ouvertes distribuent le plaisir à tous leurs dévots. Une haleine de volupté passe sur la société entière, mène la ronde des bergères et des nymphes.
Ça, c'est la meilleure phrase, non ?
C'est l'air conditionné de l'époque.
Des gorges décolletées frissonnantes sous les dentelles. Époque adorable où la chair fut reine, grande jouissance dont le souffle lointain nous arrive tiède encore avec l'odeur des chevelures dénouées. Au XIXe siècle, l'amour est un garçon rangé, correct, comme un notaire, ayant des rentes sur l'État. Il va dans le monde ou vend quelque chose dans une boutique. La politique l'occupe. Les affaires lui prennent sa journée de 9h du matin à 6h du soir. Quant à ses nuits, il les donne aux vices pratiques, à une maîtresse qu'il paye ou à une femme légitime qui le paye. Ainsi donc, l'amour héroïque du XVIIe siècle, l'amour sensuel du XVIIIe, est devenu l'amour positif qu'on bâcle comme un marché en bourse.
Ça, la fin est terrible, je trouve.
Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui est habitué de la bourse, parce que les gens qui vont à la bourse ne bâclent pas du tout, à mon avis.
Ah non, au contraire, ils sont très, très sérieux.
Et oui.
Très, très sérieux. Oui, Eva Almassi.
Peut-être que cette économie de l'amour, enfin, concevoir l'amour comme une transaction financière, même quand ce n'est pas des amours tarifés, ça pouvait être assez neuf quand même.
Comme idée, au
19e. Au 19e siècle. Donc, c'est assez moderne que de penser que nos intérêts émotionnels peuvent coïncider avec des intérêts financiers, voire que toute l'économie est à l'origine d'une question d'amour. Donc,
ce serait joli, ça. Est-ce qu'on peut se poser la question de l'écriture féminine ou masculine ? Bien qu'il n'y ait pas d'écriture masculine ou féminine, mais pour mettre un nom sur ce texte, il faut bien se demander si c'est une femme, une romancière, ou un homme, un romancier, ou essayiste, ou novelliste, qui l'a écrit, Dominique ?
Je verrais plutôt un homme, tout de même.
Oui, oui, c'est...
Sans raison particulière. Peut-être par cette espèce de certitude qu'il a à décrire les amours de telle époque, de telle époque.
Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un de très sûr de lui.
Très sûr de lui.
Il ne se remet pas en question du tout. Donc ça, on a plutôt tendance, nous, femmes, à l'attribuer aux hommes.
Oui, à dire peut-être. Voilà.
Qu'est-ce qu'il en pense, Patrick Beignet ?
Ben, j'en pense que c'est tellement bête que c'est sûrement un homme qui a... Je suis d'accord avec vous.
Eva, oui, je aussi. Pense que c'est un homme, oui, et qui, peut-être que l'auteur, là, avance quelques personnages typiques de ses écrits. Il produit beaucoup, lui-même, il est dans la production et les questions d'argent le préoccupent.
Très.
Et donc, ben, il a fait des personnages de garçons rangés, comme il a décrit beaucoup de notaires, comme il a décrit des jouisseurs et des politiciens.
Ça pourrait être un homme politique qui a écrit un purement comme ça un jour, une somme de petites réflexions, moi, Dominique Müller.
Moi, je dirais que c'est un poète qui s'essaye à de la prose.
Ah, et c'est vraiment un premier
poète
essai.
Qui aurait, oui. Non, qui a, vous savez, ces textes de prose payés par les journaux, voilà. Alors, un sous-produit d'un poète.
Oui, si on résume, c'est un homme, c'est écrit directement en français et c'est écrit au 19e. D'accord, tous?
Oui.
Oui.
Vous avez des noms? Eva Almassi.
Comme je pense que c'est une sorte d'introduction, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le grand style. Ça peut être Maupassant qui avance ses galeries de personnages et qui promet, ou même Balzac qui a tout décrit. Voilà.
Oui. Bon, mais alors qui Maupassant, Balzac?
Je dis Maupassant puisque c'était le. Je l'ai noté avant. Cela dit, j'ai noté aussi Baudelaire, mais pour l'écarter.
Voilà. Moi, j'ai dit Baudelaire,
mais moi, je l'ai écarté, mais
la preuve.
Oui, c'est noté sur votre feuille. Oui. Mais c'est quand même des
dans
des
tous ces tableaux de. Voilà.
Oui, j'ai noté
mais
aussi.
Il a fait beaucoup de journalisme.
Voilà. C'est aussi à cause du 18e, peut-être le prétexte d'une exposition, comme il a beaucoup recensé des tableaux aussi, avec on imagine assez bien toutes ces dames toutes nues sur les tableaux, et faisant un peu de remplissage.
Parce qu'il est payé à la ligne, vous pensez, donc...
Oui, mais il n'y a aucun mot de génie, quand même.
Non, ça. Oui, il y a beaucoup de textes, quand même, qui sont
oui,
très...
Patrick Beignet.
Non, c'est tellement bête qu'on a du mal à...
À l'attribuer.
À l'attribuer à Baudelaire, oui.
Oui.
Mais il faut reconnaître que ça concorde. Ça dit, moi, j'essaierais de proposer un autre nom, et ce qui m'y fait penser, c'est le passage sur le 18e, qui est vraiment le plus conventionnel, mais... Il y a quelque chose qui me fait entendre une autre voix, ce serait Sacha Guitry. Époque adorable.
Époque adorable,
Furette,
c'est Sacha Guitry, voilà. Ça.
Oui.
Ça, quelle c'est belle mise en perspective.
Oui. C'est une excellente idée, on est un peu jaloux. Hein.
Patrice
Minet, Eva propose Maupassant. Dominique Müller-Baudelaire, Patrick Beignet, Sacha Guitry. Des beaux écrivains, tous pour un texte dont il a été dit qu'il était un peu bâclé.
Oui.
Mais après tout, même les meilleurs ont parfois bâclé quelques lignes. Ça dépend dans quoi se trouvent les lignes. Enfin bon, est-ce que ces trois noms, Guitry, Baudelaire, Maupassant, ressemblent de près ou de loin aux trois noms que vous avez griffonnés sur votre page?
Oui. Tout ce qui a été dit est assez juste.
Oui.
Simplement, on peut aussi penser que des fois, il faut bâcler.
Il faut bâcler.
D'accord. Après, je vous expliquerai pourquoi.
Oui, mais ce qu'on fait,
si je m'en souviens. Oui, dans ces noms ont été cités Sacha Guitry. Oui. Effectivement. Est-ce que je vous donne les deux autres noms?
Ah bon, oui. Évidemment. Donc vous avez
parce
dans
que
la liste.
Les deux autres
Guitry.
Noms ont été cités en creux, si je puis dire. Je vous propose, en dehors de Sacha Guitry, Verlaine.
Ah, le fameux poète dont parlait Dominique.
Et Zola.
Ah oui, mais je vois sur la feuille de Dominique à côté de moi qu'elle avait écrit une hypothèse de là. Ah, très fort. Alors bon, on a un poète, Verlaine, on a Sacha Guitry, homme de théâtre, mais romancier aussi, on a Émile Zola. C'est que des grands personnages. Et on a ce texte qui parle de l'amour à travers les siècles. Alors, à qui l'attribuer? Qui veut se prononcer? Dominique Müller?
Eh bien, je vais rester dans ma ligne, suivre ma ligne et dire Verlaine.
Mmh, bien sûr, puisque vous avez dit que c'était un poète qui s'essayait à la prose.
Ou qui gagnait sa vie.
Oui, c'est ça. Patrick Beignet.
Que ce soit Zola ou Verlaine, c'est très amusant, effectivement.
Ouais.
Et ça doit être un de ces deux-là, mais je vais garder
votre
le nom de
Guitry. Bien sûr.
Tout de même.
Ben oui, puisque vous l'aviez dit au premier tour. Et que peut-être vous allez gagner.
Je ne pense pas.
Non.
Mais... pourtant, c'est séduisant.
Oui, Eva Almassi.
Oui, moi, pour être cohérente avec moi-même et mon idée très grande que je fais du génie d'écriture, moi, je vais prendre Sacha Guitry et en plus,
Moi, j'habite Fournier-le-Fleury, où là, dont le personnage le mieux connu, c'est Sacha Guitry, et que tout récemment, j'ai visité son château, enfin, avec des arbres magnifiques. Et donc, si je puis lui rendre hommage, même à travers une erreur, ça vaut bien ça, ça vaut bien ça.
Ça le vaut. Donc, deux Sacha Guitry pour Patrick Beignet, pour Eva Almassy, un Verlaine pour Dominique Muller. Pas de Zola. Qu'en dites-vous, Patrice Minet?
Mais je dis bravo.
À qui?
À personne.
Ah, ben, c'est bien sûr. Et oui.
Et oui.
C'est du Zola.
C'est du Zola. C'est désolant, mais c'est du Zola.
Mais c'est
non, c'est pas désolant.
Quoi?
À la fin de sa vie, enfin, à la fin de sa carrière d'écrivain, Zola a décidé d'être vraiment scientifique. D'écrire d'une manière scientifique, d'écarter tout ce qui était psychologique, un petit peu coloré, un petit peu amusant, un petit peu ceci, cela. Et il s'est amusé, lui, à écrire des choses plus froides, plus distanciées. Mmh. Aujourd'hui, ça nous paraît caricatural, même des fois un peu atterrant. Et pourtant, ça se tient. Et c'est un petit recueil qui s'appelle « Comment on se marie ?» qui ce sont des nouvelles. Et comme vous l'avez dit, enfin, surtout Eva, c'est une petite introduction à ces 3 ou 4 nouvelles de ce recueil qui raconte dans différentes classes de la société comment on se marie.
Et les histoires après sont voilà. Mieux que ça
et illustrent
que la préface
du 19e siècle. Je ne serais pas aussi sévère que vous sur ce petit texte parce que je trouve qu'il est très rapide. C'est-à-dire que dans son projet, c'est pour ça que le côté bâclé me plaisait bien, c'est-à-dire que dans son projet, il disait « avant on faisait comme ça et maintenant je vais vous dire comment ça se passe ». Et ça tient quelques lignes, quelques pages. Et après, il s'attache à raconter comment on se marie chez les bourgeois, chez les nobles et chez les boutiquiers.
Les notaires.
Oui, enfin, voilà. La classe moyenne.
Les petites gens, oui.
Il raconte par le menu comment on fait le trousseau, comment on paye les domestiques, comment on fait... Voilà. Et c'est un truc de boutiquier. Il écrit comme un boutiquier. Et il écrit comme un boutiquier pour raconter aussi le mariage
des...
Le mariage aussi des nobles. Et c'est-à-dire que c'est atterrant. Et tous ces 3 mariages sont atterrants de médiocrité. Et
qu'il pense, en gros, Émile Zola, que le mariage est une chose atterrante, non? Il n'a pas l'air de le défendre.
Je pense qu'il n'aime pas beaucoup la société dans laquelle il vit.
Sa propre société. Oui.
Mmh. En tout cas, vous donnez envie de lire ce livre.
Oh, c'est vite lu, surtout.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard avec Anne de Pelchin et Bruno Mourlan. Une émission à retrouver sur franceculture.fr pour le téléchargement ou podcast pendant 1 an et la réécoute pendant 1000 jours. Les infos sur notre soirée des papous à Concarneau samedi prochain se trouvent à la page Vie du Club. Et pour vos questions, suggestions et autres remarques, direction la page des papous du jour, vous écrivez rubrique commentaires. On se retrouve dimanche à 12h45 pour de nouveaux papous. Au revoir, j'offre maintenant mon micro au premier relayeur de votre après-midi sur France Culture, Antoine Perrault, pour Tire ta langue, c'est dans une poignée de secondes. Passez un très bel après-midi. Tiens,